La carte blanche, Africa Radio.
Et je rappelle que nous allons parler ce soir de ce qui a changé dans la stratégie de lutte contre les faux médicaments en Afrique après la signature de l'initiative de Lomé. C'était le 18 janvier 2020. Pour l'instant, notre invité carte blanche est en ligne de Libreville. Je crois qu'il est bien là. Allô, bonjour monsieur Greg Nguélé.
Bonsoir madame.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste pardon, à Gabon Média ou Gabon. Premier sujet choisi, chers confrères, c'est le Gabon. Vous dites qu'il y a dans votre pays un état d'urgence sans fin.
Oui, c'est le maintien de l'état d'urgence sanitaire. Donc, on finit par se demander au Gabon si c'est une histoire sans fin. Parce que ici, la loi prévoit que l'état d'urgence soit décrété pour 45 jours. Et depuis plus d'un an maintenant, tous les 45 jours, l'état d'urgence est renouvelé. Donc,
vous pensez que la... Je vous prie déjà de vous mettre, si possible, loin du bruit qui vous entoure et qui perturbe l'écoute de, ce que vous dites. Si c'est possible. D'accord. Donc, vous pensez que la situation sanitaire n'impose pas cet état d'urgence?
Bon, après, madame, vous savez, nous, on se fait le reflet de l'opinion. On essaie un peu de traduire l'état de l'opinion à travers notre média. Donc, aujourd'hui, bien que les Gabonais, dès le départ, aient consenti à se soumettre à cet état d'urgence sanitaire parce que ça impliquait naturellement de sauver des vies, aujourd'hui, pour les populations, elles trouvent que les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la COVID-19, au lieu d'être proportionnées aux risques encourus, constituent des enjeux pour elles un véritable boulot d'étranglement. C'est en ce qu'on commence à se poser des questions, sans compter que, au-delà du simple état d'urgence sanitaire, on a l'impression que l'état de droit a été mis en quarantaine.
Voilà. Et nous excusons auprès de nos auditeurs et auditrices pour la qualité de la liaison avec Libreville. Nous allons essayer de poursuivre en espérant qu'elle s'améliorera, Greg Nguélé. Deuxième sujet, c'est l'état de siège instauré cette semaine. C'était d'ailleurs hier que cet état de siège est entré en vigueur dans deux provinces de l'Est de la RDC, le Nord Kivu et l'Ituri. Que vous inspire cette mesure du président Tshisekedi?
Bon, avec d'autres regards en tant que Gabonais, sans vouloir nous mêler de ce que nous ne regardons pas, mais c'est parce que c'est une question aussi qui appelle notre sensibilité. Ça fait quand même déjà plus de deux décennies qu'il y a cette guerre dans ces provinces-là. Nous sommes un peu comme la majorité des Congolais et puis ceux qui ont regard extérieur. C'est-à-dire qu'il est fait temps, en effet, que le président Tshisekedi prenne les choses en main. Mais il n'empêche qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt renforcer l'armée en lui offrant de nouveaux moyens que de déclarer un état de siège, sachant que nos armées en Afrique prennent quand même une mauvaise réputation lorsqu'elles sont engagées dans des conflits armés par rapport au traitement qu'elles peuvent infliger aux populations qui parfois sont confondues avec les belligérants que nos armées sont censées combattre.
Donc, le gouvernement congolais, à travers le porte-parole, a donné des assurances quant au respect des droits et libertés des populations par les gouverneurs militaires et a également assuré que si ces militaires arrivaient à poser des actes allant dans le sens de la violence des droits des populations, eh bien, ils seront poursuivis. Est-ce que ce sont des garanties suffisantes pour peut-être éviter ce que vous redoutez?
Bon, madame, à la lumière quand même des différentes expériences vécues sur le continent, ça ne suffit pas à rassurer, parce que déjà par rapport à la situation au Tchad, il y a une tentative de manifestation des populations qui a été suivie d'une répression. Même le ministre de la Défense du Tchad qui a fait une déclaration disant que les soldats tchadiens se sont comportés de manière professionnelle. Si vous n'avez pas vu les images, vous pouvez prendre ces déclarations par argent comptant. Donc, non, c'est un procès d'intention à l'armée congolaise avant qu'elle n'ait pris effectivement le pouvoir en matière, dans le cadre de l'état de siège. Tout ce que nous disons, c'est que nous avons une préoccupation à la lumière des différentes expériences déjà vécues. Maintenant, après, il faudra voir comment tout ça va se passer.
En deux mots, Grégué, vous parlez des assises du football. Et vous estimez que malgré la qualification de votre équipe nationale, il y a à redire dans le foot gabonais?
Oui, effectivement, madame. Le football gabonais aujourd'hui est un champ de ruines. Il y a beaucoup de critiques qui sont adressées au ministère, à la fédération et même à la Ligue nationale de football. Sauf que, bon, voilà, le problème au Gabon, c'est que ça fait plus de deux ans qu'il n'y a pas de championnat national. Il y a eu une tentative de reprise l'année dernière, mais au bout de 3 ou 4 journées, on a dû sauter à cause de la crise. Maintenant, ce qui fait bondir les fiers du football au Gabon, c'est parce que le ministre a décidé d'organiser des assises, non pas du football, mais des assises pour redémarrer le championnat. Parce que vous vous rendez compte qu'on va prendre 12 jours pour réfléchir sur comment redémarrer un championnat et non pas comment le structurer. Donc, c'est même le format qui inquiète parce que ne participeront que ceux qui seront invités par le ministère. Donc là, quelque part, on commence à se demander est-ce que tous ceux qui n'ont pas porté un regard critique, mais pas une critique stérile, en identifiant bien les problèmes, ne sont pas écartés parce que peut-être parfois les critiques n'ont pas plu au ministre. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. De toute façon, le Gabon s'est qualifié hein, malgré ses problèmes liés au championnat qui n'a pas été joué depuis 2 ans. Le Gabon s'est qualifié en battant d'ailleurs, en éliminant d'ailleurs la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas rien, Grégué, n'est-ce pas ?
Contentieux à venir. Mais avec un contentieux à venir, je pense que je ne sais pas si vous avez l'information.
Oui, concernant un joueur qui serait congolais, d'après la partie RDC. Mais en tout cas, on suivra ça. Merci à vous, Grégué Nguélé, éditorialiste à Gabon Media Time, à Libreville, au Gabon.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Qu'est-ce qui a changé depuis l'initiative de Lomé, signée par des chefs d'État africains pour mieux lutter contre les faux médicaments? Est-ce que les dirigeants africains s'organisent-ils mieux aujourd'hui pour éliminer ce poison? Nous en débattons ce soir avec 3 invités. Professeur Yaboum, bonjour. Pas encore avec nous, il est épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique. C'est le centre de recherche de Médecins sans frontières à Yaoundé, au Cameroun. Également avec nous, en ligne de Dakar au Sénégal, docteur Amat Nyan, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et de l'IOPS, qui est l'inter-ordre des professionnels de la santé au Sénégal. Vous êtes également, docteur Nyan, vice-président de l'inter-ordre des pharmaciens d'Afrique, que nous allons entendre dans un instant, mais on me fait signe que docteur Étienne Mokondjimobé est avec nous. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Omo University of Research en RDC, ancien vice-président de l'Ordre des pharmaciens de la République démocratique du Congo. Avant de parler peut-être de ce qui a changé depuis l'initiative de Lomé dans la lutte contre les faux médicaments, dites-nous, docteur Mokondjimobé, quelle est l'ampleur de ce fléau des faux médicaments dans votre pays?
Merci, madame. Merci beaucoup de votre émission. Je salue aussi les confrères qui vont intervenir avec moi. Mais l'ampleur des problèmes des faux médicaments dans notre pays fait partie, dans la limite, du paysage sanitaire de nos pays. Quand vous sillonnez nos villes, qu'elles soient les villes urbaines ou rurales, vous avez le foisonnement des faux médicaments qui font partie des décors naturels. Malgré le fait que il existe quand même une réglementation, il existe quand même des politiques de répression, et ces fléaux semblent être partie intégrante de notre vécu quotidien. On a l'impression qu'au fur et à mesure que le monde se développe et que l'industrie pharmaceutique prend de l'ampleur dans nos cités, en Afrique, on a en même temps, on a cette disposition qui existe comme si c'était une fatalité. Plus on va vers la modernité pharmaceutique, plus dans nos cités pullulent des faux médicaments. Voilà à peu près l'état des lieux que l'on peut dire avec une certaine déception. Parce que vous avez parlé de cette affaire de Cotonou, où nos chefs d'État...
De Lomé, l'initiative de Lomé.
De Lomé, pardon. Mais Lomé est peut-être aussi le petit frère de Cotonou.
D'accord, on va revenir à cette initiative. Hein. Je voulais qu'on fasse déjà un état des lieux. Est-ce que vous avez des chiffres précis en ce qui concerne votre pays, docteur Moko Djimoubé? On parle de 1 médicament sur 10 vendu dans le monde qui serait un faux, et la plupart des signalements souvent qui reviennent viennent d'Afrique. Donc cela veut dire que la proportion et l'ampleur de ce phénomène est importante. Est-ce qu'il y a des chiffres documente ce fléau?
Bien sûr, il y a des chiffres, mais il faut prendre les chiffres de manière globale. Prenons, il y a un chiffre qui, très souvent, qui est souvent cité dans toutes les conférences du monde. Les faux médicaments entraînent 800 000 morts par an dans le monde. Et ce qui correspond à peu près à 10% des médicaments falsifiés à l'échelle mondiale. Et quand vous prenez, par exemple...
Pardonnez-moi, les chiffres que j'ai de l'OMS parlent de 100 000 morts.
De 100 000 morts?
Oui, par an.
Je crois que... Par an, non. C'est 800 000 morts.
Ah, d'accord.
Tout médicament confondu, c'est 800 000 morts. Et quand vous prenez le cas, par exemple, de l'Afrique centrale, on peut dire, par exemple, au niveau de l'Afrique centrale, c'est une région qui est fortement concernée par ces fléaux. 20 à 60 des médicaments, 60% des médicaments qui circulent sont des faux. Donc, vous allez retrouver ces médicaments faux autant dans les structures sanitaires réglementées que les médicaments de la rue. Au niveau, par exemple, de la RDC, par exemple, les faux médicaments est une réalité qui se confond avec la vie.
Est-ce que vous diriez que pour la RDC, c'est la proportion est aussi de la même que celle que vous avez décrite en Afrique centrale, c'est-à-dire 60% des médicaments vendus seraient-ils faux?
Je peux même l'affirmer avec beaucoup de conviction pour la simple raison, peut-être que je n'ai pas voulu décliner mon autre titre. Je suis actuellement le coordinateur scientifique pharmaceutique des deux Congo. Et nous avons organisé il y a 2 ans la deuxième journée de ces deux pays concernant le problème des médicaments. Et la troisième édition se fera ici à Brazzaville. Donc je suis constamment entre ces deux pays, les deux Congo, et j'ai fait des traversées entre deux pays. La situation est la même. Et là-bas, c'est encore beaucoup plus dramatique parce que la réglementation n'est pas forte. Donc il faut, voilà pourquoi il y a une coopération étroite entre les pharmaciens de la République du Congo et ceux de la RDC. Nous avons une symbiose totale pour faire en sorte que cette lutte contre les faux médicaments soit une lutte régionale. Ce n'est pas une route pour un pays, ça n'existe pas, puisque nous avons une frontière commune qui est large. Donc les trafiquants ont tout le temps de traverser à tous les points de nos frontières. Donc c'est une lutte commune. Les médicaments, les faux médicaments, est une réalité. Ça, c'est une donnée sur laquelle le monde entier, y compris vous, les médias, merci encore une fois de cette émission, je vous sens, parce que vous êtes des partenaires de la lutte contre les faux médicaments, parce que les médias jouent un rôle important. Il faut y aller.
Merci.
Voilà ce que je peux dire en introduction.
Merci, docteur Étienne Mokoum Djimbobé. Pour l'instant... Je vais y arriver. Mokoum Djimbobé.
Vous allez arriver.
Voilà. Alors, je suis désolée de dire que pour l'instant, on n'arrive toujours pas à joindre nos deux autres invités. Le professeur Yap Boum, qui est épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins Sans Frontières à Yaoundé, au Cameroun, et le président de l'Ordre des médecins du Sénégal, de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, le docteur Amat Nia, que nous espérons entendre d'un moment à l'autre. Et Hugo Valière, qui est à la réalisation de l'émission, me fait signe qu'on a le docteur Amat Nian, je crois bien. Docteur, vous m'entendez? Bonsoir.
Bonsoir, je vous entends très bien.
Soyez le bienvenu donc, dans le débat, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Alors, je disais avec le docteur Mokoum Djimoubé, on faisait un état de lieu de ce qui est de son pays sur le trafic, du trafic de faux médicaments. Alors, au Sénégal, le mois dernier, la police a démantelé un réseau de trafiquants. Et on parlait de tonnes de médicaments, de plusieurs tonnes de faux médicaments saisis. Et un ressortissant chinois était impliqué, de même que 2 pharmaciens régulièrement connus au Sénégal.
Mmh. C'est tout à fait juste, mais peut-être qu'il me sera très difficile de me prononcer en profondeur par rapport quand même à ce problème, parce que nous nous sommes constitués partie civile dans cette affaire, et pour pouvoir effectivement instruire la procédure, suivre la procédure liée quand même à cette opération de saisie. Et dès lors que des pharmaciens sont impliqués, donc ça interpelle directement quand même la responsabilité de l'ordre à devoir quand même préserver l'honneur et l'indépendance de la profession et surtout faire de telle sorte que le respect des devoirs professionnels puisse prévaloir auprès de tout pharmacien.
Donc, c'est un peu quand même embarrassant pour vous, professionnels, de retrouver certains de vos confrères dans, oui, types, dans de telles situations. C'est comme si le faux médicament était peut-être plus rentable que de s'installer régulièrement comme pharmacien. C'est l'impression qu'on peut avoir.
Je ne pense pas, parce que peut-être, pour ne pas rentrer dans les détails de...
De l'affaire.
Du fond de dossier, parce qu'effectivement, je me dois quand même un droit de réserve par rapport à cela, et en tant que président de l'Ordre, parce que peut-être ce dossier, le contentieux peut atterrir au niveau de l'Ordre, et on aura quand même à statuer. Mais ce que je veux dire, en réalité, c'est parce que l'absence de sanctions, l'absence véritablement de volonté politique, justifie le pourquoi, en fait, il y a cette conversion, reconversion des trafiquants de drogue vers maintenant le marché du médicament. Parce que, effectivement, il y a tout un allègement par rapport quand même aux conditions qui pourraient effectivement dissuader les gens à ne pas se lancer.
Pardonnez-moi, docteur, rassurez-vous, on parlera tout à l'heure de cet aspect législatif. L'ordre des médecins de plusieurs pays qui demande souvent que la loi soit plus durcie. L'ordre des pharmaciens, pardon, qui demande toujours que la loi soit durcie. D'ailleurs, l'initiative de l'OMÉ était censée permettre cela. Encore un mot et puis on va passer à cet aspect. Est-ce que le type de ce genre d'opérations au Sénégal, est-ce qu'elles sont régulières?
Mais bien évidemment, parce qu'il y a en fait un procès qui nous opposait avec des trafiquants il y a de cela 2 ou 3 ans, donc qui avait conduit à des sanctions et vraiment un mouvement au niveau du secteur de la pharmacie. Et je pense que ce sont des opérations qui sont tout à fait récurrentes et qui exposent la santé de nos populations et qui fragilisent tout un secteur. Hein, qui est dévolu quand même à gérer et tout ce qui se rapporte quand même à la vie du médicament.
On parle de conséquences comme des maladies rénales qui se multiplient au Sénégal à cause de ces faux médicaments.
Vous avez vu juste avec la prolifération des maladies rénales liées quand même un peu à l'usage de ces médicaments-là qui ne disent pas leur nom. Et je pense que le développement des maladies iatrogènes, ce sont des maladies qui sont liées quand même à l'usage du médicament. Je pense que aujourd'hui, tout ce que les autorités politiques peuvent consentir en termes de moyens pour pouvoir quand même faire face à leur politique de santé, ces moyens sont anéantis par quand même ce fléau du marché parallèle des médicaments. Parce que les populations, non seulement n'auront pas accès à des médicaments de qualité, mais également qui entraînent des effets tout à fait néfastes dans leur santé. Donc, de ce point de vue, je pense que personne ne gagne et que l'Afrique doit éviter, de ce point de vue quand même, surtout notre pays, à se prêter un spectacle par rapport quand même à ce fléau-là. Je ne peux pas comprendre qu'en France, qu'au Maghreb, des fois, quand on parle de marché parallèle des médicaments de la rue, mais les gens sont tout à fait stupéfaits pour vous demander qu'est-ce que cela veut dire, ça. Donc, il y a en fait un minimum d'organisation parce que la vie coûte cher. Je pense que l'autorité politique a toute la charge de devoir quand même veiller et de trouver les moyens qui pourront quand même renforcer la sécurité du médicament.
Merci, docteur.
Je pense que ça, quand même, c'est...
Nous allons aborder aussi dans la troisième partie de l'émission les solutions qui, d'après vous, peuvent aider à contrer efficacement ce phénomène. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant pour la suite de ce grand rendez-vous. Et ce soir, nous parlons de ce qui a changé dans la stratégie de lutte contre les faux médicaments en Afrique après la signature de l'initiative de Lomé. C'était en 2020, signée par des chefs d'État pour lutter contre les faux médicaments. Et nous en parlons avec trois invités, Dr Étienne Moko-Dimobe, coordonnateur scientifique de la RDC et du Congo. Il est également professeur à l'Omo University of Research en RDC, ancien vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Congo et de Dakar au Sénégal, Dr Amat Nyon, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal et de l'IOPS, qui est l'Inter-Ordre des professionnels de la santé au Sénégal. Vous êtes également, Dr Nyon, vice-président de l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique. Et en ligne de Yaoundé, professeur Yap Boum, épidémiologiste et représentant de d'Epicentre Afrique, c'est le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières à Yaoundé. Professeur Yap Boum, bonjour. Merci d'être avec nous, si vous m'entendez, professeur Boum, qui nous rejoint à l'instant, mais il ne m'entend manifestement pas. Je vais revenir à vous, docteur Nyon, en deux mots.
Je vous entends.
Bon, merci à vous d'être avec nous, le docteur Yap Boum. Nous faisions un rapide état des lieux de ces faux médicaments avec nos invités qui sont de divers pays. En quelques phrases, quelle est la réalité au Cameroun? Est-ce que l'ampleur des faux médicaments est aussi importante qu'en RDC, comme vient de le dire votre confrère, docteur Moko-Dimobe?
J'aurais tendance à dire qu'elle est certainement, elle est au moins égale à ce qu'on voit en RDC, mais elle est difficilement quantifiable. L'un des moyens de le quantifier, c'est quand on voit les descentes de l'association des pharmaciens ou encore du ministère de la Santé pour brûler des faux médicaments. C'est là qu'on voit un petit peu. Mais sinon, quand on regarde dans la rue la quantité de médicaments qui sont vendus entre guillemets en toute impunité, on peut bien concevoir qu'il peut y avoir des fois plus de vendeurs de faux médicaments ou de médicaments de la rue que de pharmacies.
Il parlait également de 60% de faux médicaments vendus en Afrique centrale, que 60% de faux médicaments en Afrique centrale seraient faux. Est-ce que vous pensez que les statistiques se rapprochent au Cameroun, ou vous confirmez ces statistiques, puisque le Cameroun fait aussi partie de l'Afrique centrale?
Bien sûr, mais je peux même aller plus loin. À un moment, on parlait plutôt de 70%. Mais comme je disais, les chiffres effectifs sont difficiles à justifier, mais on sera autour de 70% facilement.
Merci. Docteur Nyon, en Afrique de l'Ouest, la CDAO, quels sont les chiffres?
Les chiffres, je ne saurais peut-être me prononcer de manière exacte. Je vais pouvoir, en fait, mais c'est d'une ampleur extraordinaire parce que la situation est presque la même au niveau de la plupart de ces pays-là. Donc, surtout les pays de l'UOMOA où, en fait, des mesures coercitives pouvant dissuader les gens à s'orienter vers ce marché ne sont pas exactement au point de pouvoir quand même contourner ce fléau-là. Mais le chiffre est énorme et on ne cesse d'observer toujours, de mois, d'année en année, des saisies assez importantes de médicaments dont les conditions de fabrication ne sont pas en fait certaines et qui exposent davantage quand même la santé réelle des populations.
Le docteur Moko...
Par exemple, comme vous venez tout de suite de le dire, tout récemment, ça fait même pas un mois, donc il y a une saisie assez importante de médicaments opérés par la douane sénégalaise. Et donc, de jour en jour, même aujourd'hui, par la voix de la presse, on a appris effectivement une saisie importante d'une valeur de presque plus de 80 millions en fait, de médicaments.
Ce sont des saisies quotidiennes alors?
Presque quotidiennes, c'est récurrent Et c'est récurrent, c'est inquiétant. Je pense que ça doit mériter beaucoup plus d'attention afin quand même d'apporter des solutions majeures.
Votre confrère de la RDC disait également que de plus en plus de trafiquants de drogue semblent abandonner les stupéfiants pour se lancer dans le trafic de médicaments. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Et qu'est-ce qui explique cette facilité des trafiquants à importer des médicaments de l'extérieur pour les pays africains?
Oui, vous savez que aujourd'hui, à l'entame de mes propos, j'ai précisé clairement qu'il y a une reconversion des trafiquants de drogue vers maintenant le marché du médicament. C'est parce qu'effectivement, des mesures assez importantes sont prises par rapport quand même à ce fléau de lutte contre la drogue. Donc il y a une volonté pratiquement mondiale qui s'est manifestée pour pouvoir quand même traquer et freiner un peu l'avancée du fléau de la drogue qui affecte en réalité. Mais s'il faut comparaison pour comparaison, parce que le médicament, de par sa définition scientifique, est une drogue. Et je pense que les gens, plus ils se rendent compte que les mesures ne peuvent pas les empêcher vraiment de s'orienter et d'avoir le but recherché par rapport quand même à cette activité, mais ils continueront tout le temps à le faire. Et je pense qu'ils ne se soucient pas des répercussions sur la santé des populations. Il ne se soucie pas également de l'effet négatif sur l'économie des pays. Ce qui les préoccupe, c'est les gains faciles et au prix, effectivement, de la santé des populations.
Merci.
Maintenant, face à une telle situation, je pense que ce sont les pays africains qui doivent quand même mieux s'organiser.
Oui, docteur, rassurez-vous, on va en reparler, s'il vous plaît, dans la dernière partie. Alors, je voulais écouter tout le monde pour comprendre pourquoi on a autant de faux médicaments avec des saisies dont on parle tous les jours, alors qu'on a eu l'initiative de l'OMÉ qui était censée durcir le cadre législatif pour mieux combattre le phénomène. Mais je voudrais peut-être déjà demander encore au docteur Étienne Moko-Dimobe. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a aussi la douane qui est devenue, les douanes de plusieurs pays africains qui sont devenues une sorte de passoire, il n'y a pas de contrôle. Est-ce que vous pensez que ceci est un élément qui a pu contribuer à ces saisines fréquentes?
Vous adressez à moi?
Oui, docteur Moko-Dimobe.
Je suis originaire de la République du Congo, mais j'ai beaucoup d'activités en RDC. Et comme je vous disais que je suis un peu le coordinateur des scientifiques des journées pharmaceutiques, je parle autant de l'RDC et du Congo parce qu'on est tellement fusionnés. Donc pour moi, c'est le même espace économique et surtout linguistique naturel. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'il y a une faille au niveau de la douane aussi, au-delà
au niveau de la douane, effectivement, les services douaniers de nos pays respectifs, je pense que c'est l'un des éléments qu'il faut s'y attaquer. Parce que tout à l'heure, mon collègue Boum a dit quelque chose de très important. Il a parlé de la reconversion des trafiquants de drogue vers les médicaments. Est-ce que vous savez qu'il y a un chiffre que je peux vous donner et que vous pouvez noter? Vous savez que pour $1 investi dans le trafic des drogues, ça rapporte 10 à 20 dollars. Alors que ce même dollar investi dans le trafic des faux médicaments rapporte entre 200 et 400 dollars. Voilà la réalité des chiffres. D'où on comprenait pourquoi les trafiquants se reconvertissent facilement vers les médicaments, parce que c'est un marché juteux. Mais pour eux, les problèmes de santé des gens ne les concernent nullement. Ils sont là pour faire le chiffre.
Merci.
Alors, par rapport à nos douaniers, c'est-à-dire les services de répression et autres qui devaient être exemplaires, il y a des failles. Mais les failles, je pense que le confrère Beaumont aussi l'a souligné. C'est tout le problème de cette manque de rigueur des autorités qui ne savent pas réprimer. Le médicament est le produit le plus réglementé au monde. Voilà pourquoi on a confié à des sachants, qui sont des pharmaciens, d'avoir la gestion totale, depuis la production jusqu'à la délivrance. C'est ce qu'on appelle le monopole pharmaceutique. C'est parce que c'est un produit dangereux, il faut laisser aux mains des personnes qui sont expérimentées. C'est à partir du moment où nous avons la prolifération...
Mais pardon, docteur, on vient de le voir aussi, je le disais avec le docteur Nian, le cas des pharmaciens formés qui sont aussi des personnes impliquées dans des trafics de faux médicaments.
Absolument.
Évidemment, ce sont des cas plutôt rares. Je voulais...
C'est rare,
oui. Terminez vos propos.
Quand même, mais là, je pense que, comme a dit mon confrère, hein, c'est la responsabilité de l'ordre des pharmaciens qui doit absolument être exemplaire et prendre des mesures vis-à-vis de ses confrères qui font finalement plus l'exercice légal de leur métier. Ils deviennent des illégaux. Donc, il faut prendre des responsabilités. Il y a des sanctions qui sont prévues dans le code déontologique des pharmaciens.
Merci. Parlons justement de sanctions, professeur Boum. Cette initiative de Lomé dont je parlais, signée le 18 janvier 2020 par des chefs d'État africains, était censée renforcer la coopération entre les États et trouver aussi un cadre législatif plus sévère, plus répressif pour décourager les trafiquants. Depuis, quand on vous écoute et quand on écoute le docteur Nian parler de ces saisines quasi quotidiennes au Sénégal, on a l'impression que rien n'a vraiment changé.
Allô, docteur Nian, c'est moi qui dois intervenir.
Non, je parle du professeur Boum.
Ok, est-ce qu'il est en ligne?
Je le vois bien qu'il est en ligne. Est-ce qu'il m'entend? Bon, je vous donne la parole, docteur Nian, en attendant qu'on le retrouve. Allez-y.
Voilà, je pense que je rebondis à la suite de mon confrère qui a fait allusion quand même aux missions régaliennes de l'ordre. Je pense que c'est ce qui justifie l'existence d'une telle institution professionnelle, garant effectivement de l'exercice. Je pense que l'ordre ne manquera pas en fait, de jouer son rôle pour pouvoir rétablir quand même... pour pouvoir rétablir l'honneur de la profession et faire respecter effectivement les devoirs professionnels comme il se doit. Mais je voudrais dire par rapport à la douane, je pense qu'également, on peut peut-être tantôt les en vouloir, mais on peut aussi quand même analyser le problème sous un autre angle. Parce que si nous voulons en fait des services douaniers tout à fait en phase par rapport quand même à l'évolution de certains fléaux et se donner les capacités de pouvoir les contenir, il est important, à mon avis, que les services douaniers puissent quand même se doter de suffisamment, de beaucoup plus de moyens de contrôle et de représentation au niveau du rétablissement des frontières et au niveau des endroits où des trafics s'effectuent.
Mais pourquoi il semble manquer cette volonté politique, comme vous veniez de le dire. Pourquoi est-ce que les pays maghrébins, on n'a pas le même, on n'a pas ce fléau, on n'a pas le sentiment que l'ampleur est aussi importante que dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Mais c'est le dispositif législatif et réglementaire. Aujourd'hui, la Convention Medicrime, qui est en fait ratifié par la plupart des pays du monde, donc constitue quand même un outil de répression par rapport quand même aux pratiquants de ce trafic. Donc les pays africains doivent aussi renforcer des dispositifs qui devraient leur permettre en fait, de faire face quand même à ce fléau.
Est-ce que la pauvreté ne pourrait pas aussi justifier cette offensive plutôt timide de l'État, qui sait que tout le monde n'a pas le moyen d'aller acheter les médicaments dans les pharmacies? L'État, se refuse à aller vers le durcissement des lois pour les faux médicaments.
Mais c'est ce qui est catastrophique. On est pauvre. On s'oriente vers le marché parallèle, qui ne te garantit aucun effet positif par rapport à tes préoccupations de santé. C'est de l'économie.
Sinon, des dégâts.
Un seul franc dépensé constitue pratiquement une perte par rapport quand même à ses possibilités financières. L'État n'y gagne absolument rien. La santé des populations se détériore de plus en plus. L'économie se détériore. Donc, ce n'est pas en fait une raison de... D'ailleurs, c'est cette pauvreté qui devrait justifier le pourquoi en fait un dispositif législatif et réglementaire soit mis sur pied.
D'accord. Et docteur Nian, d'accord. Mais et ma question maintenant. Donc, vous avez le sentiment que la volonté politique exprimée à Lomé par les chefs d'État n'a rien changé dans la stratégie des pays, notamment le Sénégal, dans la lutte contre ce phénomène, ce fléau, le faux médicament.
si vous suivez l'actualité, depuis qu'il y a eu cette rencontre des chefs d'État par rapport quand même à cette initiative noble en direction du marché parallèle des médicaments, quels sont les actes qui sont posés par la suite? Donc c'est ça le problème. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout quand même de certaines initiatives.
Pas d'actes posés, pouvoir... pas de révision du cadre législatif.
Par rapport à cela, et ça fait des années, ça fait des mois. Est-ce que ça me
fait maintenant? C'était le 18 janvier 2020.
Janvier 2020. Vous voyez, vous imaginez ce que ça fait. Donc je pense que il nous faut une meilleure orientation par rapport quand même à nos préoccupations d'urgence.
Merci beaucoup. Nous avons du mal à retrouver votre confrère, professeur Yaboum de Yaoundé au Cameroun. On espère l'avoir pour la suite de cette émission. Restez avec nous, on se retrouve pour voir comment lutter efficacement, comment faire, quelles sont les mesures à mettre en place de manière urgente pour contrer ce fléau de faux médicaments en Afrique. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment mieux lutter contre le trafic de faux médicaments en Afrique et qu'est-ce qui a changé depuis l'initiative de Lomé au cours de laquelle des chefs d'État africains se sont engagés à durcir la loi pour contrer ce fléau? Nous en débattons ce soir avec Dr Étienne Makondimobe qui est professeur à l'Omo University of Research en RDC. Et il est également coordonnateur scientifique de la RDC et du Congo. Docteur Amat Nian, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal à Dakar, et le professeur Yaboum, épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG MSF à Yaoundé au Cameroun. Et nous espérons l'entendre à présent. Professeur Yaboum, vous êtes là? Allô, professeur? Malheureusement, on ne l'entend toujours pas. Pourtant, je le vois bien présent à l'écran. Alors, docteur Makondimobe, vous aussi, vous pensez que au niveau des deux pays, la RDC et son voisin ou le Congo, rien n'a changé malgré l'engagement des chefs d'État? On sait que le président Sassou Nguesso était d'ailleurs à cette rencontre de Lomé. Il a signé cette initiative.
Oui, mais bien sûr que le président Sassou Nguesso était à cette réunion, comme les chefs d'État qui étaient. Alors, comme je disais tantôt, nous sommes à la énième rencontre de ce type de réunion où les chefs d'État...
C'est pas la première initiative.
C'est pas la première initiative, affiche cette volonté de vouloir éteindre ce fléau. Mais malheureusement, dans les faits, il n'y a pas de résultats probants. Puisque, comme vous le constatez, il y a toujours la prolifération de ces faux médicaments.
Mais qu'est-ce qui empêche les chefs d'État d'aller au-delà de la volonté affichée et exprimée dans la lutte contre ce trafic de faux médicaments? Qu'est-ce qui bloque?
S'il fallait ironiser et tenter de répondre à votre question, je dirais peut-être parce que les trafiquants sont tellement puissants qu'ils arrivent à corrompre tout le monde. Vous voyez bien que tout à l'heure, on a fait l'allusion, le rapport entre la drogue et le médicament. Et tout à l'heure, mon collègue a bien dit qu'un médicament est une drogue. Mais c'est qui dit drogue, qui dit donc beaucoup d'argent qui circule. Et quand il y a beaucoup d'argent qui circule, la capacité de corruption est fortement forte. C'est une évidence. Peut-être que derrière ça, c'est un constat simple, mais je n'ai pas dit que c'est que nos chefs d'État sont corrompus. Mais je veux dire par là que ces hommes-là sont tellement puissants que tous nos services, vraiment, parce que si on veut savoir comment... on peut lutter contre les faux médicaments. Il y a d'abord les acteurs de la lutte, ils sont nombreux, et les organisations internationales, et les chefs de l'État, et les ministères spécialisés, et les acteurs de la pression, gendarmes, douaniers, juges, et les acteurs de la santé, c'est-à-dire nous, les médecins, pharmaciens, infirmiers, officines, écoles, et les acteurs de l'information que vous êtes, il y a l'opinion publique. Vous voyez, tous les acteurs de lutte sont effectivement là présents.
Mais excusez-moi, docteur Makondimobe, quelles que soient les initiatives des uns et des autres, si les trafiquants parviennent toujours à faire rentrer les faux médicaments, est-ce que ces initiatives peuvent mettre fin à ce fléau?
La question ambivalente. Tout dépend, tout à l'heure on a fait allusion à la puissance de l'État. L'État détient le monopole de la violence par rapport à ces actes criminalisants. Parce que tout à l'heure, mon collègue a parlé de la dernière convention, c'est-à-dire que le premier outil qui existe dans le monde, qui est la convention Medicrim. Ce premier outil juridique international criminalise le trafiquant et les trafiquants et a l'avantage de prendre en charge les victimes. Bon, je n'ai pas fait le décompte, mais je sais qu'à la date du 28 octobre 2016, il y a eu à peu près 26 signatures et 9 ratifications. Je pense que le chiffre a été augmenté. Donc cet outil, au niveau international, existe. Mais je pense qu'au niveau, par exemple, du Congo-Brazzaville, ça je peux le dire avec beaucoup de clarté, le Congo a signé cette convention Medicrim, et ça je salue cette initiative-là. Maintenant, il faut mettre en marche ces initiatives, mais ça c'est du ressort de l'État.
Merci beaucoup. Alors, docteur Nian, est-ce que le professeur Boum m'entend cette fois? On va faire une dernière tentative. Docteur Boum, vous m'entendez?
Ben, oui. Je vous entends.
Voilà. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. On voit donc que le cadre législatif n'a pas changé. L'espoir à l'issue de l'initiative de Lomé, c'était de voir les lois beaucoup plus répressives. Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que finalement il y ait une sorte de déclic dans cette lutte contre le trafic de faux médicaments?
Je pense que le déclic vient aussi de la mise à disposition de vrais médicaments à un coût qui soit accessible pour les populations. Parce que le marché obéit à la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire que ceux qui achètent des faux médicaments, des médicaments dans la rue, vont aussi les acheter parce qu'ils sont moins chers, parce qu'ils sont plus faciles d'accès. Donc à ce moment-là, ils savent qu'ils prennent un risque en achetant des médicaments qui sont moins bons en qualité.
C'est ce que je disais au docteur Nian. Est-ce que ce n'est pas justement cette réalité qui freine les décisions politiques? Allô, docteur Professeur Boum? Bon, perdu.
Effectivement, là, on voit qu'il faut avoir une entente, un combat avec les pharmaciens pour réduire les coûts. Et une fois que les coûts sont à la portée des concitoyens, pourquoi est-ce qu'un individu irait acheter un médicament dans la rue en prenant un risque si le même médicament, la même qualité, est à un coût accessible en pharmacie? Donc d'un côté, il y a le coût du médicament, et de l'autre côté, il y a forcément la difficulté des moyens qui font qu'on va aller vers des faux médicaments, en plus de tout ce qui a été dit, hein, la corruption qui est un fléau. Mais même s'il n'y a pas de corruption, même s'il n'y a pas de faux médicaments, ça voudrait dire quand même que les populations qui n'ont pas les moyens n'auront pas accès aux bons médicaments.
Merci. Docteur Nian, vous parliez de solutions sous-régionales, mais l'initiative de Lomé, une fois de plus, était censée pousser les États à renforcer leur coopération.
Bien évidemment. Moi, je dis, la première des conditions qui pourra véritablement permettre de venir à bout de ce fléau, c'est d'afficher une véritable volonté politique. Et il faut que...
Qui fait défaut pour le moment, on l'a constaté.
Mais ça, vraiment, nous devons avoir le courage de le dire. Parce que quand il s'agit des questions qui relèvent de caractère un peu politique et qui tiennent compte véritablement des intérêts de certains acteurs politiques, mais on voit quand même les comportements qui peuvent garantir des préoccupations et satisfaire quand même à des ambitions tout à fait affichées et manifestées. Donc, la volonté politique est fondamentale. Mais je ne partage pas l'idée que le prétexte de la pauvreté qui justifie l'orientation vers le marché parallèle, les faux médicaments, en aucun cas, ces médicaments ne doivent pas circuler au niveau du territoire africain. Nous devons quand même, l'Afrique doit se prémunir pour pouvoir quand même assurer la sauvegarde de la santé de nos populations. Maintenant, les stratégies à mettre en œuvre, c'est d'aller vers la criminalisation en nuisant vraiment des outils.
C'est-à-dire durcir les lois en matière de trafic de faux médicaments comme ça l'est pour la drogue.
Comme ce qui s'est fait avec...
les drogues et les stupéfiants.
Avec le trafic de la drogue. Hein? Donc, par des mesures d'urgence, hein, qui tiennent compte de l'évolution du fléau et que les sanctions évoluent suivant quand même l'ampleur
de ce fléau-là.
Docteur Nian, juste pour terminer en deux secondes, il y a des experts qui affirment que le trafic de faux médicaments est même devenu l'une des sources de financement des groupes terroristes dans le Sahel. Compte tenu du défi sécuritaire dans cette sous-région, le Sahel, est-ce que peut-être ça peut être un élément qui finalement oblige les chefs d'État à faire plus attention à la lutte contre le trafic de faux médicaments?
Mais bien évidemment, je pense que l'État est suffisamment outillé pour pouvoir quand même peaufiner ses stratégies et avoir les informations adéquates, les informations justes et valables pour pouvoir définir son plan d'action. Et je pense que quoi que l'on puisse faire, la priorité doit être quand même orientée vers ce qui peut garantir une meilleure santé des populations afin quand même de permettre une meilleure espérance de vie.
Merci.
Le médicament se trouve à un niveau fondamental. Il occupe une place assez importante dans la vie de l'individu.
Merci beaucoup, Dr Amat Nian, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal à Dakar. Dr Étienne Moko Djimobé, coordonnateur scientifique de la RDC et du Congo. Merci au professeur Yaboum, épidémiologiste et représentant de Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG MSF à Yaoundé au Cameroun. Merci à vous. Bonsoir.